السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Au cours du précédent sermon, en évoquant l'attribut Al-Warsir de Dieu, j'ai mentionné certains commandements du Saint-Coran. Et aujourd'hui, je vais continuer le même sujet. Et je vais citer certains versets où l'on trouve mention des faits qui concernent notre vie quotidienne. Ces versets concernent aussi notre état moral et spirituel. Allah embrasse toute chose dans sa connaissance. Il connaît chacune de nos actions et il a évoqué ses directives pour nous guider dans la bonne direction, afin que chacun d'entre nous puisse profiter des faveurs divines selon nos aptitudes. Afin que nous puissions profiter donc de ces grâces de Dieu. Et afin que nous puissions avoir aussi le plaisir de Dieu. À ce propos, Allah a donné des directives concernant notre vie conjugale. Il a aussi donné des directives concernant la vie en société. Il nous a aussi donné des directives afin de nous guider concernant la religion. Il nous a aussi donné des directives afin que nous puissions vivre une vie spirituelle et morale qui soit en accord au plaisir de Dieu. Donc, tout aspect de la vie de l'homme a été embrassé par Dieu et il a donné des directives complètes à ce propos. Tout cela est en raison du fait que l'homme est commandé d'adopter les attributs divins. C'est pour cette raison qu'il doit traduire cette qualité dans sa vie spirituelle et morale et il doit faire des efforts pour élargir son champ d'action afin qu'il soit de ceux qui profitent de la proximité de Dieu. Mais en même temps, Allah déclare que je connais vos capacités et vos aptitudes. Sachez donc que ce qui vous a été confié n'est pas au-delà de vos capacités. Et sachez aussi que tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. Et puisque tous n'ont pas les mêmes capacités, c'est pour cette raison qu'Allah impose des commandements qui sont à la mesure de nos capacités. Mais ce n'est pas à l'homme que de fixer les limites de ses aptitudes. Allah seul connaît les aptitudes et les capacités de tout un chacun. Concernant les commandements de Dieu, l'on ne peut dire que ces commandements dépassent nos moyens et nos forces. Allah a octroyé à chacun des aptitudes cachées. Et c'est la tâche de l'homme que de faire monter à la surface ses aptitudes et de les polir davantage. Allah déclare à propos du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'il est notre modèle. Et il nous demande de suivre cet exemple et ce modèle. Il n'y a qu'un seul homme parfait, et ses capacités et ses aptitudes à lui sont sans limite. Si l'on médite sur n'importe quel aspect de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'on constatera qu'il a atteint l'apogée dans tous ses domaines. Quant à nous, nous avons reçu le commandement que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est notre référence et que nous devons nous évertuer à émuler son exemple. Au début, j'ai déclaré qu'Allah a donné des directives concernant la vie conjugale. À ce propos, je vais citer quelques versets du Saint-Coran. Mais avant cela, je voudrais citer l'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, notamment comment il a traité ses épouses. Et quel niveau exalté a-t-il atteint dans ce domaine? Une fois, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux les membres de sa famille. Et dans ce domaine, je suis le meilleur d'entre vous. Ensuite, il nous a prodigué d'autres conseils. Il a déclaré que certes, vous pouvez voir les défauts dans l'autre. Certes, certaines des habitudes de l'autre peuvent vous déplaire. Mais sachez qu'il y a nombre de bonnes qualités dans l'autre. Vous devez tout le temps avoir en tête ces bonnes qualités et vous devez faire preuve d'indulgence et vous devez faire régner une atmosphère d'entente. Ce commandement s'applique à l'homme et à la femme. Et toutes les épouses du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, témoignent du fait qu'elles ont été bien traitées par lui. Lorsqu'il partait en voyage, il tirait au sort ses épouses pour que l'une d'entre elles puisse l'accompagner. Lorsqu'elles étaient malades, il s'occupait d'elles. Ils respectaient aussi leurs sentiments. Mais en dépit de toutes ces qualités, ils priaient « Oh mon Seigneur, tu sais que je fais de mon mieux pour être juste et équitable dans mon traitement. » Mon Seigneur, je n'ai point de contrôle sur mon cœur. Si mon cœur est enclin vers l'une d'entre elles en raison de ses qualités, alors pardonne-moi. À propos de Hadrat Khadija radhiyallahu anha, le saint prophète Mohammed lui avait dit à Hadrat Aïcha que Khadija était avec moi lorsque j'étais seul. Elle m'a soutenu lorsque j'étais sans soutien. Elle m'a confié toutes ses richesses. Et Allah m'a donné des enfants grâce à Khadija. Et Khadija m'a accepté alors que le monde m'avait rejeté. Et c'est pour cette raison que j'honore tout le temps sa mémoire. Le saint prophète, paix soit sur lui, honorait la mémoire de Khadija en dépit du fait qu'il avait d'autres épouses et qu'il avait aussi son épouse bien-aimée, une épouse qu'il aimait en raison du fait qu'il avait reçu plus de révélations dans sa chambre. Lorsqu'elle a dit que vous avez d'autres épouses, pourquoi évoquer donc cette vieille dame? Le saint prophète Mohammed lui a conseillé à Aïcha qu'elle ne doit pas être bornée, mais qu'elle doit être persévérante. Et il a déclaré, « Voilà les raisons pour lesquelles j'évoque ma première épouse. Aujourd'hui, les orientalistes et les pourfendeurs du saint prophète Mohammed lui outragent la mémoire du saint prophète Mohammed lui. Mais ne voit-il pas l'exemple sublime de mon maître, à quel point il s'est acquitté de ses devoirs envers ses épouses et comment il était équitable envers chacune d'entre elles. Et tout cela en dépit du fait que l'on ne maîtrise pas ses sentiments. En dépit de ce fait, lui, il était juste envers chacune de ses épouses. Et quant à celle qui avait tout sacrifié au tout début, il en a fait mention à ses épouses et il déclare que si je n'aurai pas la mémoire de cette épouse de Khadija, alors je ne serai pas reconnaissant envers Dieu. Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Dieu qui m'a octroyé d'innombrables faveurs. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui traitait avec aménité ses épouses, car tel était le commandement de Dieu, c'est-à-dire que l'on doit être juste et équitable. Et lorsqu'il a dit à ses compagnons que c'est le commandement de Dieu que vous devez mettre en pratique, lui-même il fut le premier exemple dans ce domaine. Le Saint-Coran donne certes la permission d'avoir plus d'une épouse, mais il y a certaines conditions. L'on critique l'islam, mais l'on critique le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à ce propos, à savoir que l'on donne la permission d'avoir plus d'une épouse, et c'est là une injustice envers les femmes, ou que l'on s'est soucié uniquement des sentiments de l'homme. À ce propos, Allah déclare dans le Saint-Coran que ce n'est pas une permission qu'on a donnée librement. Allah déclare « Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama » فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Et si vous craignez de ne pas pouvoir agir avec justice envers les orphelins, alors épousez des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une, ou épousez ce que votre main droite possède, Cela est la voie la plus proche pour vous afin d'éviter l'injustice. Ce verset est un garant de la protection des orphelines. Il est dit que vous avez la permission d'épouser les orphelines, mais vous n'avez pas le droit d'être injuste envers elles. Vous devez leur accorder leurs droits et après le mariage, vous devez respecter leurs sentiments. Et ne croyez pas qu'elles n'ont pas de soutien et que vous pouvez les traiter comme bon il vous semble. Et il est dit ici que si vous avez des doutes que vous ne pourrez pas être équitable et juste, alors épousez des femmes libres, 2, 3 ou 4. Mais vous devez être juste et équitable. Si vous ne pouvez être juste, alors n'épousez pas plus d'une épouse. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare que vous avez le droit d'épouser les orphelines qui sont sous votre tutelle. Mais si vous croyez que vous serez injuste envers elles, alors épousez des femmes qui ont des parents que vous allez respecter, des parents que vous allez craindre, 2, 3 ou 4, mais à condition d'être juste. Si vous n'êtes pas équitable, alors contentez-vous d'une seule épouse, même si vous ressentez le besoin d'épouser plus d'une. Voyez ce qu'a déclaré le Hakam El-Adl de notre époque. Il a déclaré « même si vous ressentez le besoin d'épouser plus d'une ». Et il nous a fait comprendre ici que vous prétextez vos besoins pour épouser plus d'une épouse, mais vos besoins ne sont point importants ici. L'essentiel, c'est la paix de la société et la justice. Ces derniers temps, l'on reçoit des doléances que certains hommes ont des enfants, mais ils veulent se marier de nouveau. Ils cherchent des prétextes. Tout d'abord, on doit comprendre que si vous n'êtes pas équitable et juste, vous ne devez pas vous marier une deuxième fois. Et la justice signifie s'acquitter de tous ses devoirs. Si vous n'avez pas des revenus pour une seule maison, pourquoi se marier une deuxième fois? Se marier une deuxième fois signifie léser les droits de la première épouse et de ses enfants. Le Messie premier l'Islam a déclaré que si par obligation vous devez vous marier une deuxième fois, alors dans ce cas, l'on doit s'occuper davantage de la première épouse. Mais ce que nous voyons dans la pratique, c'est que l'on néglige petit à petit les devoirs envers la première épouse et ses enfants, et en fin de compte, on les néglige complètement. Et tout cela est contre les commandements de Dieu. On doit analyser si on a les moyens et si l'on ne sera pas injuste dans ces domaines. Le Messie premier, l'Islam, déclare que selon nous, l'homme ne doit pas s'attirer des difficultés et des épreuves en se mariant une deuxième fois. On a de grandes responsabilités envers ses épouses, et si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs, l'on sera en grande difficulté et l'on va s'attirer la colère de Dieu. J'ai évoqué au début une prière du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, où il priait que, « Ô mon Seigneur, je m'acquitte de mes devoirs envers toutes mes épouses, mais il se peut que je sois enclin envers l'une d'entre elles en raison de ses qualités. Ses sentiments ne sont pas sous mon contrôle, alors pardonne-moi. » Et tout cela est en accord à la nature de l'homme. Dieu a créé l'homme. Il connaît ses aptitudes, mais en dépit de ce fait, il lui a donné la permission de se marier plus d'une fois. Dieu connaît l'invisible, il connaît ses qualités et ses capacités. Mais il a déclaré dans le Saint-Coran que si dans une telle situation, vous êtes plus enclin vers l'une d'entre elles. Alors, dans ce cas, vous devez vous acquitter de vos devoirs. Tout comme il le déclare dans la sourate An-Nisa, وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et vous n'arriverez pas à garder un équilibre parfait entre les épouses malgré vos meilleures intentions. Cependant, ne penchez pas entièrement vers l'une d'entre elles, laissant l'autre dans l'incertitude. Et si vous vous amendez et que vous agissez avec droiture, assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Dans des situations qui dépassent les moyens de l'homme, il ne pourra pas faire preuve de justice et d'équité. Mais il doit faire preuve d'équité dans ces domaines qui sont sous son contrôle. Et la justice et l'équité évidente signifient de les vêtir, de les nourrir et de les donner un toit équitablement et de leur consacrer le même temps. Si vous dépensez sur vos épouses mais que vous ne leur consacrez pas le même temps, ce sera là injuste. Si vous leur donnez un toit, mais que vous ne les soutenez pas financièrement et qu'elles doivent mendier, alors ce ne sera pas bien. L'homme est donc responsable de tous ses besoins physiques. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a déclaré que celui qui a deux épouses et qu'il favorise l'une d'entre elles au détriment de l'autre, au jour de la résurrection, il n'aura que la moitié de son corps. Allah déclare donc que la taqwa signifie que vous devez vous acquitter de vos devoirs envers toutes vos épouses équitablement et que vous ne devez pas priver l'une de vos épouses de ses droits. Vous ne devez pas les abandonner dans l'incertitude en les privant de leurs droits ou en les privant de leur liberté. Cela ne sied pas aux croyants. Il incombe donc aux croyants d'éviter de telles choses et de se réformer et d'éviter ces actions qui sont interdites par Dieu. L'on reçoit certaines donnances à ce propos. Il y a certains qui abandonnent leurs épouses complètement et qui favorisent l'une épouse au détriment de l'autre. Ensuite, dans certains cas, l'on cherche des excuses. Et cela se passe même si l'on s'est marié qu'une seule fois. Dans certaines disputes, le mari déclare que je ne vais pas te donner le divorce et je n'ai pas vivre avec toi non plus. Et si le cas s'est présenté au qada ou au tribunal, l'on traîne l'affaire sans aucune raison. L'on cherche des prétextes pour que l'affaire traîne. Et certains ne divorcent pas de leurs épouses afin que la femme demande le divorce en premier et afin que l'homme n'ait pas à payer la dot. Toutes ces actions nous éloignent de la taqwa, de la droiture. Allah déclare que vous devez vous réformer. Si vous cherchez la miséricorde et le pardon de Dieu pour vous-même, vous-même, vous devez être en premier un exemple de miséricorde et vous devez donner à votre épouse ses droits. Si vous voulez profiter de la munificence de Dieu, vous devez être vous-même munificent. Dans le verset suivant, Allah déclare وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. Il dit donc que si les deux se séparent, Allah, de par sa munificence, les rendra indépendants. Et Allah est munificent, sage. Dans ce verset, Allah déclare que s'il n'y a pas de possibilité de réconciliation, alors l'on ne doit pas abandonner son épouse dans l'incertitude. On doit lui accorder son droit et lui donner le divorce. Et si l'épouse est abandonnée de l'incertitude, elle a le droit de demander le divorce. En tout cas, Allah déclare que les croyants, hommes et femmes, vont marcher sur les voies de la taqwa lorsqu'ils vont vivre avec amour et humilité et lorsqu'ils vont faire de leur mieux pour vivre ensemble. Mais s'ils sont contraints de se séparer, ils doivent se séparer avec grâce. Et le mari doit s'acquitter de ses devoirs de la meilleure façon et doit se séparer de son épouse de la meilleure façon. Voilà le devoir du mari et voilà le droit de la femme. Et si les efforts sont vains et si l'on doit se séparer, alors sachez qu'Allah déclare que de par sa munificence, il va pourvoir aux besoins de l'époux et de l'épouse. Et il va les rendre indépendants. Et selon un hadith, le divorce est l'acte permissible le plus exécrable aux yeux d'Allah. Mais puisqu'on a agi avec taqwa, puisqu'on a fait de son mieux pour maintenir cette relation et que l'on n'a pas pu maintenir cette relation, alors Allah, celui qui connaît les cœurs, lorsqu'on se tourne vers lui et lorsqu'on est contraint de prendre cette décision de se séparer, alors Dieu, de par sa munificence, va soutenir les deux. Dieu est juste et sage. C'est pour cette raison que la décision que l'on prend en implorant Dieu, cette décision sera emplie de sagesse. Dans ce verset, l'on trouve mention d'un principe de base, à savoir qu'une alliance conjugale ne doit pas se baser sur des émotions. Les émotions des parents ou des jeunes gens ne doivent pas agir ici. L'on ne doit pas sceller une alliance conjugale sous le coup des émotions. L'on doit par contre se tourner vers Dieu, Dieu qui connaît tout, Dieu qui embrasse tout dans sa connaissance. On doit implorer son aide avant de conclure une alliance. Et si l'on agit ainsi, alors certainement Dieu va bénir cette relation. Et Dieu va pourvoir à leurs besoins. Dieu va bénir leurs biens et va leur accorder l'aisance. Dieu va rétablir leur relation. J'ai évoqué le divorce et j'ai déclaré que certains hommes traînent l'affaire du divorce. Généralement, quelque temps après le mariage, après avoir vécu ensemble, et dans la plupart des cas, après avoir eu des enfants, c'est là que certains demandent des divorces. On connaît les droits des femmes et les devoirs de l'homme, les devoirs concernant ses dépenses. Mais Allah déclare que dans certaines situations, le décide de ne plus se marier avant même d'avoir conclu cette alliance, avant même d'avoir payé la dot. Mais même dans ce cas, l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers l'épouse. de la sourate Baqara, Allah déclare: La junaha alaykum in tualaktum nisa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa mat'uhunna ala al-musiri qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muhsinin. À savoir, vous n'aurez commis de péché si vous divorcez de vos femmes avant de les avoir touchées ou avant d'avoir fixé la dot à leur intention, mais pourvoyez à leurs besoins le riche selon ses moyens et le pauvre selon les siens, d'une manière convenable. Ceci est une obligation pour les bienfaisants. Dans ce verset, Allah déclare que quand l'homme décide de ne plus se marier, décide de ne plus conclure cette alliance, et cela, quelle qu'en soit la raison, l'homme doit bien traiter son épouse dans ces cas. Et selon ses capacités, il doit pourvoir aux besoins de la femme. Si Allah lui a accordé des moyens, alors l'homme doit montrer ses moyens. Si Allah vous a accordé des moyens, mais que vous ne le montrez pas, alors certainement Allah pourra enlever vos moyens. Si vous ne faites pas preuve de bienfaisance, il pourra transformer votre aisance en indigence. Donc, si vous voulez profiter des faveurs de Dieu, vous devez traiter les autres avec faveur et avec aménité. Mais puisqu'Allah ne place pas des fardeaux qui dépassent vos capacités, c'est pour cette raison qu'il est dit que si vous n'avez pas les moyens, si vous êtes pauvre, vous devez donner selon vos capacités. Allah déclare que si vous êtes vertueux et si vous êtes de ceux qui agissent avec taqwa, alors il vous incombe de faire preuve de grâce et d'aménité. Voyez à quel point le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était pointilleux à ce propos. Une fois, un ansari a voulu divorcer de sa femme avant même de l'avoir touchée. Il n'avait pas encore fixé la dot pour son épouse. Ce cas fut présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et le saint prophète a demandé à l'homme: est-ce que tu lui as donné quelque chose comme cadeau? L'autre a répondu que, au prophète d'Allah, je ne possède rien. Le saint prophète a répondu que si tu ne possèdes rien, alors donne-la au moins ce que tu portes sur la tête. Donne-la ton chapeau. Cela démontre à quel point le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était pointilleux concernant les droits des femmes. Dans cette situation, on n'avait pas encore fixé la dot pour la femme. Et il a déclaré que vous devez lui donner quelque chose. Mais si la dot a été fixée, que doit-on faire? Dans le prochain verset, l'on trouve mention de ce fait. Il est dit que si vous avez déjà fixé la dot, alors avant de vous divorcer, vous devez l'offrir la moitié de cette dot. C'est ainsi donc que le Saint-Coran a établi les droits des femmes et les droits de la famille des femmes. Et c'est ainsi que Dieu a évoqué les devoirs de l'homme envers son épouse. Il y a des commandements clairs concernant la relation avec son épouse et concernant l'allaitement des enfants. Et les commandements concernant les femmes sont clairs et nets. On trouve mention de leurs devoirs envers leurs époux et envers leurs enfants. Et Dieu a déclaré que toutes ces responsabilités sont selon vos aptitudes et selon vos qualités. C'est pour cette raison que vous devez assumer ces responsabilités. Il y a plein de détails à ce propos et je ne vais pas entrer dans les détails ici. Ces deux points suffisent ici, à savoir que, d'une part, il y a les droits des épouses selon la pratique du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et le fait qu'il est lui-même un exemple sublime dans ce domaine, et il a laissé son exemple afin qu'il puisse avoir le plaisir de Dieu. Et il y a aussi le fait que tout Ahmadi doit suivre cet exemple, et tous doivent s'acquitter de leurs devoirs. Ce sont des devoirs qui incombent aux hommes. Il y a un autre point que je veux évoquer ici. Par la grâce d'Allah, cette pratique n'est pas générale, mais dans la Jamaat, l'on trouve mention des cas ici et là. Dans la sourate Al-An'am, Allah déclare « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah déclare, et ne touchez pas au bien de l'orphelin sauf en agissant pour le mieux avant qu'il n'atteigne sa majorité, et donnez la pleine mesure et le bon poids en toute équité. Nous ne mettons aucune âme à l'épreuve au-delà de ses moyens. Et lorsque vous parlez, observez la justice, même s'il s'agit d'un proche parent, et remplissez le pacte d'Allah. Voilà ce qu'Allah vous enjoint afin que vous preniez garde. Dans ce verset, Allah a évoqué 5 points. Il a déclaré, entre autres, que nous ne mettons aucune âme à l'épreuve au-delà de ses moyens. Comme je l'ai déclaré, Allah connaît les aptitudes de tout un chacun en raison de sa connaissance. Les commandements qui ont été donnés ici sont selon nos aptitudes. En premier lieu, il est dit de ne pas toucher au bien de l'orphelin, sauf en agissant pour le mieux. Ceux qui sont les gérants des biens des orphelins sont les tuteurs et ils doivent agir de la meilleure façon ici. Dans un autre endroit, Allah a déclaré que vous devez faire des efforts de protéger les biens de l'orphelin. Voilà ce qui a été dit dans deux versets précédents. Et il est aussi dit que si vous n'avez pas les moyens de vous occuper de ces orphelins, si vous ne pouvez pas dépenser sur ces orphelins, alors vous pouvez dépenser de leurs biens. Mais vous ne devez pas les priver de tous leurs biens avant qu'ils n'atteignent l'âge de la maturité. Celui qui est honnête et celui qui protège leurs biens jusqu'à leur âge de maturité. Et vous allez vous acquitter de vos responsabilités lorsque vous allez gérer les biens de l'orphelin, tout comme vous gérez vos propres biens. Vous gérez vos biens en agissant avec précaution et en faisant de bons investissements pour avoir des profits. En tout cas, lorsque vous gérez vos biens, avec justesse. Et de même, vous devez investir d'une bonne façon les biens de l'orphelin afin que cet investissement puisse porter des fruits, afin qu'il puisse avoir des profits. Et lorsque ce business va grandir et porter des fruits, ces orphelins pourront profiter de ces biens et être des membres honorables de la société. Et cela en dépit du fait qu'ils étaient des orphelins. Mais dans certains cas, l'on reçoit des doléances où l'on constate que certains parents n'ont pas été justes concernant les biens des orphelins. Certains ont la tutelle d'un neveu qui est orphelin, et ces personnes consomment les biens des orphelins. Ces gens doivent savoir que si vous consommez leurs biens, vous ne pourrez pas augmenter vos richesses. Et même si vous avez pu avoir un avantage matériel en détournant leurs biens, vous allez quand même tomber sous le coup de cet avertissement de Dieu, où il a déclaré que ceux qui détournent les biens des orphelins remplissent leur ventre du feu. Ces gens ne font que remplir leur ventre du feu. Et quant à ceux qui vont aider ces personnes injustes, ces personnes aussi vont tomber sous le coup de l'avertissement de Dieu. Allah déclare « Fardilu walau kana dha qurba », c'est-à-dire « observer la justice même s'il s'agit d'un proche parent ». Il est dit que vous devez protéger les biens de l'orphelin, et si quelqu'un est en train de détourner les biens de l'orphelin, vous ne devez pas l'aider, c'est-à-dire aider cet usurpateur. Après avoir mentionné les orphelins, Allah déclare que vous devez donner la pleine mesure et le bon poids. Vous devez agir en toute équité et vous ne devez pas être malhonnête. Il y a bon nombre de peuples qui ont été détruits parce qu'ils ont été malhonnêtes dans leurs transactions. Les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, étalaient leurs marchandises au grand jour. Et même s'il n'y avait pas de défaut apparent, il disait tout à l'acheteur en disant que ici il y a tel ou tel défaut, afin de ne pas tromper l'autre. Allah déclare à la fin que vous devez être juste, et il dit que vous devez respecter vos engagements. Les premiers conseils concernent la société et l'on pourra agir selon ses commandements lorsqu'on va considérer Dieu comme omniscient. Dieu qui connaît qui est celui qui est en train de respecter ses engagements. Lorsque vous aurez en tête ses engagements envers Dieu, c'est là que vous allez accomplir vos devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Et c'est ainsi que l'on vous considérera comme quelqu'un qui est en train d'agir selon les commandements de Dieu. Mais ne croyez pas que ces tâches dépassent vos aptitudes et vos capacités. Sachez que toutes ces actions sont selon les capacités de l'homme. Lorsqu'on va agir ainsi, c'est là que l'on va profiter de cette bonne nouvelle donnée par Dieu. cette bonne nouvelle où il déclare Wallazina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mais ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, et nous ne chargeons aucune âme au-delà de ses capacités, ceux-là seront les habitants du paradis et ils y demeureront éternellement. Qu'Allah fasse que nous puissions nous prosterner devant ce Dieu, celui qui nous a donné des commandements qui sont à la mesure de nos capacités. Dieu qui nous a donné des commandements en dépit de nos moyens limités. Mais il a aussi évoqué sa grâce illimitée et nous a donné la bonne nouvelle qu'il va nous couvrir de ses grâces. Il nous incombe donc de grandir dans notre foi afin de profiter de ses grâces. Et il nous incombe d'accomplir ces actes de vertu, qu'Allah nous en donne la possibilité. Amin.